Bonjour, pardon de ce léger retard et bravo pour votre ponctualité. On va laisser nos invités s'installer. Je sorte un peu de quelques documents quand même. Bon, merci tout d'abord d'être là parce que je trouve ça toujours très très méritoire d'assister à des débats quand il fait extrêmement beau dehors. Quand il y a même des livres de cinéma à voir de l'autre côté de la rue. Donc merci à vous d'être parmi nous et d'être avec nous. Le sujet, vous le connaissez, il est un petit peu ouvertement polémique. On va se demander si l'adaptation littéraire au cinéma est une trahison. Je ne suis pas sûr qu'on répondra à la question. Je suis certain qu'on lui apportera des réponses et surtout des réponses en acte. C'est-à-dire que nous avons essayé de faire en sorte que nos invités puissent concrètement, le plus concrètement possible, parler de, non pas de ce problème, mais de ces questions qui font que, depuis ses origines, le cinématographe à avoir avec la littérature, avec les livres. Je rappelle juste pour mémoire que le premier gag du cinématographe s'appelle L'arroseur arrosé. Et il se trouve que L'arroseur arrosé était un des gags les plus éculés des petites bandes dessinées de l'époque. Et que, donc, dès son origine, le cinéma paye son tribut, en quelque sorte, à la chose écrite, en l'occurrence à la BD, mais très rapidement, Alexandre Dumas ou la Bible seront mis en image, et de façon en plus récurrente, c'est-à-dire qu'on aura des versions des Misérables, des versions de la Bible, des versions de tel ou tel ouvrage de Hugo. Comme si, mais c'est la réalité, comme si le cinéma, effectivement, payait sa redevance à la littérature, comme il paye d'ailleurs sa redevance à la musique, à la peinture, à la sculpture et à l'ensemble des autres arts « vieux », entre guillemets, anciens, qui l'ont, lui, l'art jeune, l'art nouveau, largement précédé, et qui ont évidemment, et singulièrement en matière littéraire, défriché, décrypté, presque dépouillé l'ensemble, peut-être, des histoires. Que peut-on raconter de nouveau à la naissance du cinéma quand on a derrière soi des siècles et des siècles d'histoires d'abord racontées, ensuite écrites? C'est évidemment ce pari-là auquel a été confronté dès sa naissance le cinéma. Peu de temps avant sa naissance, quelques dizaines d'années avant quand même, plusieurs dizaines d'années avant, un penseur de la littérature avait dit qu'il y avait en tout et pour tout 36 axes dramatiques, que la littérature les avait tous explorés et qu'on ne pouvait pas en rajouter un seul. À quoi Goethe avait répondu que c'était une ineptie et qu'il se faisait fort d'en trouver au moins un 37e qui mettrait la théorie en l'air, et il n'a pas réussi à trouver. C'est dire si, effectivement, quand le cinéma naît, il ne peut, en quelque sorte, non pas que se tourner vers la littérature, mais en tous les cas, trouver dans la littérature, trouver dans les livres, et dans des livres extrêmement différents, matière à inspiration, on va dire. Et singulièrement, évidemment, dans ces premiers temps, plutôt la littérature populaire, puisque, comme vous le savez, le cinéma n'est pas né comme un art confidentiel, mais comme un art de foire, comme un art de forain, et comme un art éminemment populaire. Voilà, donc c'est un peu dans ce contexte-là, sur cette base-là, que nous allons essayer de réfléchir ensemble. Je dis bien ensemble, c'est-à-dire que selon la méthode selon la formule consacrée, il y a un micro dit baladeur, et que ce micro baladeur est fait pour vous, et que vous pouvez à tout instant intervenir. Je pense que les échanges n'en seront que plus riches et plus intéressants pour nous et pour vous. Voilà. Avant de vous présenter nos invités, je voudrais juste vous lire comme une sorte de clôture du débat. Il n'y a rien de tel pour introduire un débat que de le clore. Quelques paroles récentes que j'ai trouvées sous la plume de Christophe Honoré. Je vous les lis avant de vous présenter nos invités. La question de l'adaptation littéraire m'ennuie. C'est une question vaine, surtout dans le cinéma français où tous les bons cinéastes ont couché avec la littérature. Il n'y a pas d'adaptation, il y a des romans qui infusent les films et dont la mise en scène offre une lecture personnelle. Un roman au cinéma, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est un cinéaste qui a lu. Et pour les cinéastes écrivains, la possibilité d'une lecture même d'un film. Car les cinéastes écrivains détiennent ce secret que le cinéma, c'est possiblement et aussi autre chose qu'une nouvelle écriture. Le cinéma est une lecture. Voilà une idée qui n'est pas exactement la même idée que les bons cinéastes sont des lecteurs. À quoi sert le cinéaste écrivain dans le cinéma français ? À lire des films. Voilà. Fort de clore la discussion, cette réflexion de Christophe Honoré, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir au cours de notre débat, à travers un film encore inédit. Mais je trouvais que, dans son paradoxe, dans sa vivacité, cette citation de Christophe Honoré était tout à fait pertinente et intéressante. Je vais donc vous présenter mes invités. À ma gauche, à votre droite, mais n'y voyez rien, aucune autre malice que celle de la géographie pure. Gilles Torrent, scénariste, dont j'ai l'habitude de dire qu'il est le seul homme au monde à avoir réussi à adapter Proust jusqu'au bout pour le cinéma. D'autres, comme Visconti ou Lozé et leurs scénaristes Pinter et Chiquidamico, s'y étaient cassés les dents. Lui, pour Ruiz, il y est arrivé, ce qui le place dans une situation tout à fait privilégiée pour parler de l'adaptation littéraire, d'autant plus qu'il a, je dirais, dans son cartable, réussi d'autres adaptations, celle par exemple de Stéphane Zweig pour 24 heures de la vie d'une femme, mais nous reviendrons sur ce qu'a fait Gilles Torrent en matière d'adaptation littéraire, et singulièrement, très récemment, on y reviendra avec Christophe Honoré. À ma gauche, j'ai le plaisir de vous présenter Alain Absir, qui est le président de la SGDL, la Société des gens de lettres. Et c'est l'occasion pour moi de vous préciser ce que je n'avais pas encore fait, pardon, que le débat s'inscrivait évidemment dans le Salon du livre du cinéma, qu'il est organisé à et par la Cinémathèque, mais en collaboration totale, complète, amicale avec la Société des gens de lettres. Donc merci à Alain Absir d'être parmi nous. Il est effectivement président de cette noble société, et il est peut-être surtout, dans ce qui nous occupe, écrivain et auteur de bonne trentaine, je crois, d'ouvrages, de romans, mais pas seulement de romans. Il a aussi écrit un Jean S., c'est comme ça qu'on dit, sous lequel se cache Jean Seberg. Et c'est vous dire donc que le cinéma est pour lui une autre préoccupation à côté de la littérature. À ma droite, à votre gauche, Patrice Hoffmann, directeur littéraire chez Flammarion. Nous connaissons bien avec Patrice parce que, pas pour parler de nous, mais il se trouve que nous avons ensemble lancé, il y a quelques années, le premier magazine français consacré au scénario et à l'adaptation littéraire aussi, forcément, qui s'appelait Synopsis. Patrice Hoffmann était partie prenante de cette aventure, avec quelques autres, convaincus qu'il était évidemment de l'importance de l'écriture pour les images. Et à Flammarion, s'il est directeur littéraire maintenant pour la fiction française, après l'avoir été pour la fiction étrangère, il s'est occupé aussi, et de façon ô combien prenante, précisément du département dit droit audiovisuel, cette en tête un peu administrative, recoupant simplement l'activité d'un éditeur aussi important que Flammarion pour favoriser, faire en sorte que ces productions littéraires, que ces romans, et pas seulement ces romans, nous y reviendrons, deviennent peut-être des films de cinéma. En l'occurrence, nous parlerons de cinéma, mais aussi, il faut le dire, des films de télévision. Et ce praticien de l'adaptation littéraire qu'il est nous intéressait particulièrement, évidemment, dans ce débat. À ma gauche, un binôme, on va dire, pour un binôme constitué avec une œuvre devant, derrière ce binôme qu'ils ont porté tous les deux, Claude Miller, cinéaste, scénariste, acteur, parfois même, on l'a vu, Philippe Grimbert, psychanalyste, écrivain, c'est bien comme ça. C'est le binôme du film Un secret, sorti cette année, que j'ose espérer vous avez vu, sur lequel on reviendra assez longuement, puisqu'on a la chance d'avoir, en quelque sorte, j'aime pas la terminologie, mais l'adaptant et l'adapté. On va dire ça comme ça. Et avec une force d'autant plus grande que si vous avez lu le roman ou le livre, on va dire, et si vous avez vu le film, vous savez que Philippe Grimbert est pour le moins partie prenante de l'histoire qu'il raconte. Et le fait qu'il ait été jusqu'au bout, avec, aux côtés de Claude Miller, dans un rapport, je crois, de très grande proximité sur lequel ils sont même revenus, notamment dans un ouvrage, autour du film, je pense que c'était intéressant de les avoir parmi nous pour essayer de voir cette étrange alchimie entre un cinéaste et un auteur. On verra que ce n'est pas forcément un mariage d'amour. Dans d'autres cas, il se trouve ici, je crois que nous avons une collaboration, une entente, une empathie qui est très très profonde. Alain Absir, peut-être est-ce qu'on peut faire sans chiffres, sans statistiques, mais est-ce qu'on peut dire un peu plus sur l'importance dans le cinéma français des lettres, en quelque sorte, et sur le rapport peut-être qu'entretiennent les écrivains français avec le cinéma. Est-ce qu'il y a une spécificité française? Est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce que c'est un amour de haine entaché de relations incestueuses? Comment est-ce que vous, romancier, vous voyez les choses en la matière?
Alors, de haine, sûrement pas. Je crois que ce sont des métiers différents, de toute façon. Au cinéma, je dirais que, en l'occurrence, tout commence par des histoires. Alors, il faut bien que quelqu'un invente des histoires. Mais l'adaptation littéraire n'est pas la seule voie possible, comme chacun sait. Je crois que beaucoup d'écrivains, beaucoup d'auteurs ont eu diverses expériences. Bon, je crois que là, nous avons le cas d'une expérience réussie. Elle a été réussie, je dirais, artistiquement, humainement, à tout point de vue. Effectivement, ça ne marche pas toujours comme ça. Le problème, c'est que il y a de la part des auteurs un sentiment réel de jalouse possession de leur œuvre, de leur bouquin. Et il est vrai que passer peut-être le premier mouvement d'euphorie de se dire voilà, je vais être adapté, j'ai peut-être une chance d'être au cinéma ou à la télévision, les choses après se compliquent un petit peu. Moi, je crois que, en fait, ce sont deux univers qui doivent se rencontrer, voire trois, à la limite. Il y a l'univers de l'écrivain, il y a l'univers du cinéaste, et entre les deux, il doit y avoir l'univers du scénariste qui peut être ni l'écrivain de départ, bien sûr, ni le cinéaste à l'arrivée. Et je crois que ce qui est important, c'est que ces univers, à ce moment-là, se rencontrent. Moi, je crois qu'on a tort de penser, et c'est souvent le cas, là, je vais peut-être critiquer un petit peu mes confrères, c'est très rare, donc il faut saisir l'occasion. Je crois que le but n'est pas forcément de reconnaître à tout prix le livre dans ce qu'il est, lorsqu'il est transféré, lorsqu'il passe, lorsqu'il y a cette transmutation au cinéma. Je crois que ce qui est important, avant tout, c'est l'atmosphère, c'est l'état d'esprit du livre, c'est son essence. Vous savez que, et je crois que ça introduira bien le débat, il existe en France, en plus, vient se gréver là-dessus, des questions de droit d'auteur. Vous savez qu'en France, il y a un droit d'auteur qui a deux facettes. Il y a le droit patrimonial, c'est-à-dire c'est l'argent issu de la vente des livres. Et puis, il y a ce qu'on appelle le droit moral. Et le droit moral consacre, ce qui n'est pas forcément le cas dans le droit anglo-saxon, consacre ad vitam aeternam, en quelque sorte, la propriété de l'esprit de l'œuvre sur l'auteur lui-même. C'est-à-dire que l'auteur, l'œuvre, le contenu de son œuvre est son bien. Et a priori, nul n'a le droit, ni aujourd'hui, ni demain, ni plus tard, de se l'approprier, de la modifier, etc. Et à partir de ça, qui part d'un très bon sentiment, et bien sûr, nous auteurs, nous sommes tout à fait partisans de ce droit moral, à partir de ça, je crois qu'il y a un certain nombre d'incompréhensions qui se font jour. Alors, je voudrais simplement citer un ou deux exemples qui me viennent tout de suite à l'esprit quand on parle d'adaptation littéraire. Est-ce qu'il faut qu'un livre au cinéma soit restitué en quelque sorte tel quel ou pas? Alors, il y a un exemple qui vient tout de suite à l'esprit et qui concerne un cinéaste que tout le monde connaît qui s'appelle Luchino Visconti. Il se trouve que Visconti, à 3 ou 4 années d'écart, a adapté deux immenses romans de la littérature. D'abord Le Guépard. Il a adapté extrêmement fidèlement Le Guépard, à part la dernière scène du livre, qui n'était pas cinématographique du tout. Et puis, 3 ou 4 ans plus tard, en 1967, je crois, il a adapté extraordinairement fidèlement L'Étranger d'Albert Camus. Il se trouve qu'il y a un film, Le Guépard, qui est absolument célébrissime et dont tout le monde s'accorde à dire que c'est un chef-d'œuvre et qui prolonge en quelque sorte le livre, alors que qui voit encore aujourd'hui L'Étranger, qui se souvient de L'Étranger, qui est d'une fidélité, c'est, si je peux m'exprimer pour parler un peu populairement, c'est un marquage à la culotte en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que c'est exactement le livre. Et en réalité, ce qui est troublant, c'est que ce n'est pas du tout réussi. Pourquoi ? Parce que, enfin moi c'est mon idée, parce que dans Le Guépard, c'est à la fois l'esprit du livre et c'est à la fois l'esprit de Visconti. C'est-à-dire qu'on retrouve dans toute sa splendeur, l'esprit, l'œuvre de Visconti. Vous savez d'ailleurs que Visconti avait pensé jouer le prince Salina lui-même avant de confier le rôle, je pense qu'il a bien fait, à Burt Lancaster. Alors que dans L'Étranger, on ne retrouve pas Visconti. On ne retrouve même pas le Visconti, je dirais, de ces films quasi néo-réalistes comme Rocco et ses frères. Il s'est complètement effacé devant Camus. Et très sincèrement, c'est raté. Alors, moi, je serais... évidemment, Camus n'est pas là pour le dire. Mais au fond, d'une certaine façon, je me sentirais plus trahi à l'arrivée par la fidélité de Visconti sur L'Étranger, que si Visconti avait pu y injecter quelque chose de lui. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que deux univers doivent se rencontrer, et ce n'est pas pour autant forcément une trahison, bien au contraire, mais l'un doit sublimer, en quelque sorte, l'autre. Il peut s'en écarter, il peut en être proche, mais malgré tout, on doit retrouver un tronc commun et l'expression de deux ou de trois grands talents, grandes personnalités. Voilà, c'est ce que je voulais dire en introduction, mais je pense qu'on y reviendra.
Merci. Patrice Hoffmann, est-ce que, je sais que les éditeurs n'aiment pas qu'on parle d'argent, mais est-ce qu'on peut quand même un tout petit peu savoir ce que recouvre la réalité en termes financiers de l'adaptation littéraire d'un ouvrage ? Est-ce que c'est important financièrement pour un éditeur et pour un auteur ? Et est-ce que ça devient un enjeu ? C'est-à-dire, au fond, concrètement, est-ce que le fait qu'un livre soit adapté, c'est pour l'éditeur et l'auteur beaucoup plus qu'une nouvelle vie financière, mais presque une vie, c'est-à-dire qu'il peut se bâtir des choses autour d'une adaptation et du fait qu'un livre est acheté.
Oui, en plus, je crois qu'il y a tous les cas de figure possibles, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont extrêmement réussis, qui représentent des sommes faramineuses. Il y a eu quelques exemples récemment de romans importants, et même en France, qui se sont vendus pour, on va dire, 500 000 euros ou même 1 million d'euros, en minimum garantie, plus les royalties qui peuvent tomber derrière. Donc ça, c'est des cas qui sont certes complètement exceptionnels, mais enfin qui sont importants, avec là des films qui ont un avenir plus ou moins important selon les cas, ou sur des réussites variables. Il y a beaucoup d'autres cas où on est dans... Il y a quand même des normes, hein, on est sûr des normes. Les films de cinéma sont d'abord traités entre 50 000 et 100 000 euros, un petit peu plus, etc. À la télé, on est plutôt vers 30, 50, etc. Ça, c'est une espèce de minimum garantie. Sachant que les recettes... Ne se limite pas parfois à ce minimum garanti, mais c'est assez complexe. Mais il y a donc pour une œuvre de cinéma toutes sortes de guichets, il y a beaucoup de formes d'exploitation. Et évidemment, l'auteur de l'œuvre originale est intéressé aussi bien par l'exploitation vidéo que l'exploitation VOD, que toutes les exploitations possibles. Et que dans certains cas, il y a comme ça des exemples de films qui, 20 ans, 30 ans après, rapportent encore à l'auteur de l'œuvre originale. Encore une fois, c'est assez marginal. Bon. Donc ça, c'est pour le plan financier, je dirais. Sur le plan de l'importance que ça peut avoir, je crois que c'est ça peut être très, très important. Ça peut même être, je pense, dans certains cas, extrêmement stressant, je pense, pour un auteur, de voir un véritable intérêt de beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent à ce moment-là. Je crois que c'est à la fois perçu par beaucoup de gens comme une chance extraordinaire, et après la chance vient l'angoisse, très clairement. C'est-à-dire de se dire, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire quand même de mon texte, qu'est-ce qu'on va faire de mon œuvre, etc. Et ça, à un moment-là, il y a des gens qui sont beaucoup mieux placés que moi pour en parler. Derrière ça, là encore une fois, alors là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures en donnant des exemples. Je pense que c'est de toute manière une grande chance, mais nous, on est là en vendant les droits aussi, en essayant de créer ce dialogue dans de bonnes conditions. Donc c'est là qu'il faut essayer. On essaye, nous en tout cas, comme d'autres, de faire un travail un peu pédagogique auprès des auteurs, parce qu'il faut voir que souvent, un auteur est quelqu'un qui, pendant des mois, des années, a mûri un texte dans la plus grande intimité, la plus grande solitude, et d'un seul coup, il se retrouve en face d'équipes, des fois d'équipes de scénaristes, et puis après, qui vont travailler avec un réalisateur et beaucoup de gens. Donc on essaye de faire un petit effort pédagogique, un peu dans le sens que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire il va falloir peut-être lâcher le bébé à un moment... ou un autre. Et c'est ce moment ou un autre sur lequel on va peut-être revenir dans quelques instants, parce qu'il y a beaucoup à en dire.
Mais volontiers, on va le faire. Simplement, est-ce que, par rapport à l'importance des enjeux que vous venez de décrire, est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que c'est déjà peut-être en cours, que certains éditeurs font écrire leurs auteurs des romans, mais pour le cinéma ou pour la télévision ? Est-ce qu'il n'y a pas cette tendance-là, en sachant que c'est important économiquement, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à dire, eh ben, écoutez, faites-moi de futurs bons scénarios de cinéma ou de télévision ?
Oui, et généralement, ce n'est pas très réussi quand on part de ce point de vue-là. Mais évidemment que c'est
pourquoi,
une tendance.
Pourquoi ce n'est pas réussi ? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas pour que ça ne soit pas réussi ?
C'est-à-dire que je pense que, comme le disait Alain Pierre tout à l'heure, ce sont quand même deux objets radicalement différents. Un scénario, c'est un objet qui est vraiment une œuvre. Pour moi, on s'est défendu pendant des années pour le faire valoir, mais c'est une œuvre de passage, de travail, qui s'appuie sur vraiment un travail d'expert dans beaucoup de domaines, de structure, narrative, de dialogue, de beaucoup de choses, avec des règles qui n'ont rien à voir avec la littérature. L'économie des personnages, l'économie de la structure narrative n'a vraiment rien à voir dans bien des cas. Je crois qu'on a des exemples vraiment importants. Et donc, vouloir demander à un auteur, dans son intimité, dans son travail d'écriture, parce qu'il y a aussi un travail de style, etc., d'emblée de se mettre dans la situation de dire être adapté, c'est presque brûler une étape. Je pense qu'en effet, il faut bien au contraire avoir une œuvre qui soit authentiquement, une œuvre littéraire qui soit authentique en elle-même, et c'est après quelqu'un de l'art, ça pourrait être la même personne, d'ailleurs on le voit dans certains cas, mais de se dire qu'est-ce que je vais faire pour adapter Proust, pour adapter Grimbert, pour adapter Dumas.
Philippe Grimbert, le psychanalyste que vous êtes, n'a pas de tabou, donc vous allez nous dire très simplement si pour vous l'adaptation de votre livre a été une bonne affaire.
Financière ?
Pardon ? Oui, par exemple.
Financière, vous voulez dire ?
Par exemple.
En tout cas, oui, on commence de façon drôlement prosaïque.
Hein. Bien sûr, mais on passera à l'art après, ne vous inquiétez pas.
Je vais vous rassurer. Oui, bien sûr. En tout cas, il est évident que le film a relancé l'intérêt pour le livre. J'ai eu la chance avec ce livre qu'il y ait une série comme ça d'étapes qui ont fait que ce livre qui est... j'aime pas le terme en tant que tel, parce qu'il est un terme anglo-saxon qui est très commercial, best-seller. On m'a dit que non, c'était un long-seller que je connaissais pas encore comme format.
C'est encore mieux.
C'est-à-dire que l'aventure du livre a été relancée par le prix Goncourt des lycéens, alors que le livre commençait à marcher déjà, par le Grand Prix des lectrices de Elle, et puis par l'adaptation cinématographique qui, à nouveau, a redonné un élan qui peut-être même est le plus important, à en juger par les ventes en poche qui vraiment ont explosé à ce moment-là. Donc il n'y a aucun doute, oui. Mais je crois que c'est dû pas seulement au fait qu'un film a été réalisé d'après mon roman, c'est aussi dû, je pense, à l'alchimie qui s'est produite et à la correspondance, indépendamment de l'aspect du film lui-même, qu'il y a eu entre Claude et moi. Claude n'a jamais effacé il y a des films qui font oublier complètement qu'ils sont tirés d'un livre. On se souvient pas qu'un roman a été à l'origine du film, alors que le travail de Claude, le travail de communication, je veux dire même simplement, a toujours placé le livre à l'horizon de son travail cinématographique. Et je crois que le film n'a pas bouffé le livre du tout, bien au contraire, et l'inverse non plus. C'est-à-dire que je crois qu'ils se sont épaulés mutuellement ce livre et ce film. Et je crois que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens qui ont vu le film sans avoir lu le livre se sont ensuite dirigés vers le livre. ça, c'est une aventure formidable de ce point de vue-là. Ah oui, un intérêt évident, et ça je ne peux que le noter. De même que quand on dit le prix Goncourt des lycéens a été aussi un coup d'accélérateur incroyable chez le public adulte, hein, pas seulement chez les lycéens, bien sûr.
On va s'intéresser maintenant un peu plus en profondeur à un secret et au processus d'adaptation. Claude Miller, je n'ai pas dit tout à l'heure que vous étiez ici peut-être le recordman absolu des adaptations, parce que, sauf erreur de ma part, 13 films, 13 longs-métrages à ce jour, 8 adaptations littéraires. Plus de la moitié de films qui sont tirés de romans. Ça vous met vraiment en situation très particulière, parce que des études ont montré que, bon an mal an, dans le cinéma français, il y avait 20% d'adaptation. Vous, avec plus de 50% dans votre œuvre, vous explosez la statistique. Alors, pourquoi ce tropisme particulier ?
Parce que je suis rarement content des scénarios originaux que j'aborde, que je me permets d'aborder. Ça m'arrive assez régulièrement, en me disant qu'il faudrait quand même que je fasse un truc qui sorte entièrement de moi. Et j'y arrive pas.
Il y en a eu quand même.
Ou j'y arrive pas, ou je crains de ne pas y arriver, ou je ne suis pas content de mes premières pages. Et maintenant que j'arrive à un âge respectable, je n'ai plus tellement de temps à perdre avec ces essais qui ne sont jamais transformés, enfin, ou très rarement. Ça, c'est une chose. La deuxième, je pourrais gloser sur pourquoi j'ai une... peut-être que je ne suis pas un auteur au sens noble du mot. Peut-être que je suis simplement un cinéaste.
C'est pas mal, déjà.
Oui, mais je ne me plains pas. Et je suis, et c'est toujours ce que j'ai voulu être, un cinéaste et un metteur en scène. Ce que je remarque, c'est qu'on vit en France dans une culture, effectivement, cinéphilique de l'auteur, disons, complet. Et ce que je trouve tout à fait normal, d'ailleurs. En même temps, je pense qu'on peut être aussi seulement un metteur en scène. On ne reproche pas à un metteur en scène de théâtre, aussi prestigieux soit-il, de ne pas écrire ses pièces. Et ça n'empêche pas que Chéreau fait une œuvre extrêmement personnelle, pour ne citer que lui, ou Luc Bondy, ou voilà. Bon, ceci pour vous dire que je ne suis pas si modeste que ça, et que peut-être que malgré tout, je me considère comme un auteur. Malgré tout.
Un co-auteur, alors ?
Non. Je serais plus prétentieux que ça, parce que, et là on peut en revenir au sujet du débat, là, je crois, qui est adaptation-trahison, ouais, c'est bien ça ? Bien sûr. En vous écoutant présenter le débat, je me disais, mais peut-être que tout lecteur, de toute façon, opère une trahison. Tout simplement parce que la lecture passe par sa subjectivité. Et moi, quand je fais un film, c'est ma lecture du livre de Philippe. C'est ma lecture, ce sont mes émotions, évidemment suscitées par lui, mais qui peuvent... c'est une espèce d'alchimie qui fait que la chose, à l'arrivée, sort, que ma subjectivité, mon imaginaire, comme celle de tout lecteur, ne va pas être au millimètre près et à la culotte, comme vous disiez, ce qu'a écrit Philippe. Donc, dans ce cas-là... C'est dans ce sens que peut-être, je trouve que Christophe Honoré a très bien dit ce qu'il y avait à dire, ce n'est pas un problème, puisque dès qu'il y a lecture, à mon avis, il y a trahison. Alors après, il y a le problème de l'évaluation de la qualité de la chose. Est-ce que le film va m'enrichir autant que va enrichir le consommateur, si je peux dire, autant que le livre ? Là, on peut commencer à discuter. Mais il y a trahison, forcément, au départ.
Saint-Bert, vous voulez ajouter quelque chose ? Allez-y.
Oui, j'avais envie de dire il y a trahison ou il y a adaptation. C'est de la part du lecteur. Il y a adaptation. Je dis souvent aux personnes qui me demandent ce que j'ai pensé du casting ou des images de film que de toute façon, chacun des lecteurs a fait son casting, sa réalisation, et va jusqu'à choisir le papier peint des pièces où se déroule l'action. Donc il y a vraiment adaptation de la part du lecteur. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, on se pose beaucoup la question, j'en sais rien, c'est l'idée qui me vient au moment où je vous parle, mais de pourquoi tant de cinéastes ont eu envie d'adapter des romans. Je pense qu'ils expriment là peut-être, avec l'outil qu'ils ont entre les mains et la technique et le talent qui est le leur, quelque chose qui est de l'ordre, j'allais dire, d'un inconscient collectif, c'est-à-dire quelque chose qui fait de tout lecteur un adaptateur cinématographique en puissance, c'est-à-dire qui fait son film à partir du livre. Il n'y a pas un lecteur qui ne donne pas un visage à un héros de livre, et parfois ce visage, si on savait lequel il est, on serait surpris. Parfois même, c'est à la limite de l'inconscient, c'est-à-dire vous pouvez donner le visage de votre grand-mère
à un des... Ça, c'est le psychanalyste qui parle.
Mais, oui, bien sûr. Mais c'est l'homme aussi, parce que c'est pas si loin que ça des préoccupations de chacun. C'est-à-dire qu'en effet, on compose des visages sur une lecture, et je pense que le cinéaste, lui, se charge de nous le projeter sur écran, cette tendance naturelle qu'on a en tant que lecteur.
J'aurais trouvé paradoxal que pendant ce débat, on n'entende pas de littérature et on ne voit pas de cinéma. Donc je vous propose à tous les deux, à vous tous, un petit exercice. Philippe Grimbert, si vous voulez bien nous lire la première page de votre livre. Et puis, je le dis à la régie, on verra ensuite les premières images de Claude Miller. Juste la première page. Merci.
Fils unique, j'ai longtemps eu un frère. Il fallait me croire sur parole quand je servais cette fable à mes relations de vacances, à mes amis de passage. J'avais un frère, plus beau, plus fort, un frère aîné, glorieux, invisible. J'étais toujours envieux en visite chez un camarade quand s'ouvrait la porte sur un autre qui lui ressemblait quelque peu, des cheveux en bataille, un sourire en coin, qu'on me présentait en deux mots, mon frère. Une énigme, cet intrus avec lequel il fallait tout partager, y compris l'amour. Un vrai frère, un semblable, dans le visage duquel on se découvrait pour très commun une mèche rebelle ou une dent de loup, un compagnon de chambrée dont on savait le plus intime, les humeurs, les goûts, les faiblesses, les odeurs.
Merci. On va regarder un peu d'images, voilà, parce qu'au fond, on est là aussi pour ça, le cinéma. Choisi si j'ai choisi cette double lecture des commencements, c'est parce que Gilles Torrent le sait bien, j'ai un tropisme sur comment commencer une histoire. Je l'avais fait travailler déjà dessus une fois ensemble, et il s'était prêté au jeu, et je trouve, on y reviendra avec lui tout à l'heure, mais je trouve que la thématique, moi en tout cas, m'intéresse, et je voulais confronter, non pas dans un exercice un peu vain, mais les premières lignes d'un roman, les premières images d'un film. Il est bien évident que ça ne met pas en chose les mêmes, ça met pas en valeur les mêmes choses, il est bien évident que ce n'est pas le même discours. Il est bien évident que finalement on entre peut-être plus brutalement dans le livre qu'on entre dans un film. Je crois que ce genre de confrontation le montre. Il y a une sorte d'accompagnement au cinéma qui n'est pas fait dans le livre, parce qu'on entre avec brutalité, mais c'est ainsi. Et en même temps, j'ai souhaité aussi vous montrer le générique, parce que au fond, c'est le moment où le livre existe. Le générique de début d'un film, quand il est adapté. C'est le moment où on voit le nom de l'auteur, c'est le moment où on voit le nom du roman, et après, ça disparaît. Et j'ai trouvé que symboliquement, c'était important. Alors, juste à l'un des deux, je ne sais pas, mais on commence un film, on commence un livre, pas de la même manière, pas de la même façon, évidemment. Est-ce que l'un des deux, vous pouvez nous dire l'alchimie qui se passe, peut-être Claude Miller, qu'est-ce qui fait que Philippe Grimbert commence comme ça? Qu'est-ce qui fait que vous avez, alors que lui a commencé de cette façon-là, qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé comme ça?
Je t'en prie.
Je commence. Bah, c'est drôle, cette question, parce qu'il se trouve que quand j'ai rencontré Philippe Grimbert pour la première fois, enfin, je faisais partie des candidats à l'adaptation de son livre, parmi d'autres. Et on m'avait prévenu, enfin mon producteur m'avait dit, il paraît qu'il demande quelles vont être les premières images du film. Et donc, je m'étais un peu creusé la tête pour imaginer ces premières images. J'ai imaginé, en fait, deux possibilités de début à dire à Philippe, quand je l'ai rencontré. Bon, et il se trouve maintenant que ce que vous avez vu n'est absolument pas ce que je lui ai raconté.
Première trahison.
Première trahison, voilà. Ça, c'est une chose. Non. Alors, pourquoi j'ai commencé comme ça? Enfin, pour moi, le livre de Philippe, c'est aussi un roman, comment dire, de fondation d'identité, si je peux dire. Je peux dire les choses comme ça. Je crois que l'homme qui est Philippe est fondé par l'histoire qui a été fondée par l'histoire qu'il raconte dans son livre. Donc l'identité, qu'est-ce que je suis, à quoi est-ce que je ressemble, mais physiquement, moralement, c'est pour moi très très important dans cette histoire, d'où est arrivé le besoin tout de suite de placer, même si c'est très métaphorique, cette préoccupation. Ma préoccupation, d'où ce gamin qui s'avance vers ce miroir, enfin ce qu'on comprend être un miroir au bout d'un certain temps, et qui se regarde, et puis voilà. Et je savais qu'il fallait très très vite que j'arrive quand même à cette deuxième chose qui est fils unique, j'ai longtemps eu un frère. Alors je pensais que vous allez, parce que Non, parce que ça arrive assez vite, ce thème, dans le film, presque très très vite après le générique. Mais c'est vrai que je n'ai jamais imaginé, malheureusement, ou je n'ai pas trouvé la clé pour introduire cette histoire de la même façon que Philippe. Voilà. C'est, encore une fois, ce qui, moi, me touchait. Une des choses qui me touchait le plus dans le livre, ma lecture, c'était ce problème d'identité. Voilà. Et donc, je suis tout de suite parti dans mes préoccupations, et on est encore une fois dans l'adaptation et la trahison.
Absolument. Philippe Grimbert, votre vision de cette vision, si je puis dire?
Ah bah, vous savez, il me vient beaucoup d'idées. Juste déjà en tant qu'auteur, la première phrase. Ça, je veux dire que tant qu'on n'écrit pas trop, quand on commence à écrire, on n'y pense pas énormément. Moi, je sais que mon premier roman commençait d'une façon complètement banale par cette semaine-là. Paul faisait un stage. Et puis, il se trouve que là, j'allais dire malheureusement, il y a eu cette phrase qui m'est venue, qui n'était d'ailleurs pas la première phrase du livre. C'est vraiment une question de montage. C'est mon éditeur qui m'a dit, elle commençait le deuxième chapitre. Ce serait mieux que le livre commence par cette phrase.
C'est donc votre éditeur qui vous a trahi.
C'est, oui, enfin, qui m'a rendu service aussi, je dois dire, parce qu'il avait raison d'une certaine façon. Mais j'aimais bien cette phrase de Fils unique, mais bon, elle faisait très bien en début de second chapitre, alors qu'il est évident qu'elle introduit beaucoup mieux le livre. Et ça, c'est le travail d'un éditeur aussi, de vous le dire. Et donc, il vous rend un grand service. Cette question de la première phrase, du coup, elle se pose à moi pour le prochain livre d'une façon beaucoup plus aiguë qu'elle ne se posait jusque-là, parce que quand on vous dit « Ah, cette première phrase », évidemment, vous vous mettez en rivalité avec vous-même pour la prochaine fois frapper fort dès la première phrase. Et je vais essayer de ne pas le faire, justement. Mais enfin, oui, il y a cette question. Je vais raconter une histoire, mais Claude en a peut-être assez de me l'entendre raconter, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'adaptation, je raconte cette histoire de Monaco, du forum d'adaptation du littéraire au cinéma, où mon oreille de psychanalyste était chatouillée par le fait que les producteurs, les réalisateurs qui prenaient la parole à la tribune faisaient tous le même lapsus. Et vous savez que les psychanalystes, les lapsus, ça les intéresse beaucoup. Et ce lapsus, c'était celui-ci. C'est-à-dire qu'au lieu de dire adaptation, ils disaient toujours adoption. Il y a eu au moins trois fois ça. Quand j'ai fait l'adoption du film, pardon, l'adaptation, et hop, à chaque fois. Adoption, pardon, l'adaptation. Et je me suis dit qu'il fallait entendre quelque chose de formidable, du désir du réalisateur, là, d'adopter. Et quand on parlait de bébé, c'est vous qui l'avez dit, je crois tout à l'heure, confier le bébé à quelqu'un d'autre, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'il est évident qu'un livre, on le considère soi-même comme un enfant, on l'a porté assez longtemps, on a envie que les autres l'aiment, on souffre quand on en dit du mal, c'est évident, et on souffre quand il ne réussit pas sa carrière, comme on pourrait souffrir pour un enfant qui ne fait pas la carrière qu'on aurait souhaité pour lui. Mais en tout cas, il est évident que quand on confie cet enfant à un autre, qu'il l'adopte et qu'il l'adapte, il en fait quelque chose qu'on pourrait en effet comparer, on pourrait mener la métaphore jusque-là, c'est-à-dire qu'un enfant né d'un couple qui vient dans une autre famille, être élevé dans les coutumes, dans la tradition, dans la culture, dans l'atmosphère, dans les fantasmes, dans les désirs d'une autre famille. C'est au fond ça que devient le livre quand il est adopté par un réalisateur. Et ça me plaît beaucoup. Parce que souvent, j'aime bien dire, est-ce que vous avez eu l'impression d'être trahi par Claude Miller? Tout le monde pense que je vais dire non. J'ai dit oui, mais heureusement. Parce qu'en effet, une fidélité totale n'aurait pas d'intérêt. Je crois que, en effet, l'adaptation est intéressante quand elle est fidèle à l'esprit, pas forcément quand elle est fidèle à la lettre.
Gilles Doran, vous avez eu l'impression d'adopter le petit Marcel Proust et le petit Stéphane Zweig à un moment donné de votre vie?
Non, moi, j'ai souvent...
C'est une paternité qui dure, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous vivez encore avec eux?
J'ai souvent entendu du scénariste qu'il est un accoucheur, un obstétricien. Je me découvre
parent.
en mère adoptive. Ça ne me déplaît pas du tout. Non, mais c'est vrai que le lapsus est drôle.
On peut avoir ce rapport-là. Enfin, c'est quelque chose que vous vivez comme ça.
Oui, mais enfin, ce qu'on appellerait adopter. Il s'agit surtout d'adopter l'univers d'un réalisateur. C'est d'abord ça, puisque je crois que le scénariste se met au service de cet univers et que, s'agissant de Proust, si j'avais eu aussi la chance de travailler avec Visconti, avec Lozay, j'aurais très vraisemblablement écrit un tout autre scénario, une toute autre adaptation. Ça, c'est
vous
la première des évidences.
Pour Raoul Ruiz.
J'ai écrit pour Raoul Ruiz parce que je connaissais son univers et que je savais que, de toute manière, il fallait que je l'adopte et que je m'adapte à cet univers. D'autant plus qu'il m'avait quand même proposé un certain nombre de, non pas de clés, ça c'était à moi de les trouver, mais de pistes. Voilà. Mais pour en venir très brièvement à la question, pour que je puisse dire là, moi qui aussi de temps en temps pas assez écrit des romans, ce que l'on peut penser de la trahison ou de la fidélité, j'ai le sentiment que toute adaptation cinématographique est de façon contre nature. Ça n'est pas un acte qui me paraît naturel pour une raison très simple, et ça, il faut mettre les choses à leur place, c'est que littérature et cinéma, ce sont deux univers très, très différents. Et que je ne vois pas quel est, il y en a pourtant, quel serait le romancier ou la romancière digne de ce nom qui, commençant d'écrire un roman, se dirait « ça va faire un beau film ». Et là, je rejoins absolument ce que dit Christophe. C'est une démarche très différente. Le lecteur n'est pas le spectateur d'un film. Le lecteur et le plaisir de lire comme le plaisir d'écrire n'ont
je dirais presque rien à voir avec le cinéma. Bon, ça c'est une chose qui me semble absolument évidente et qui a un certain nombre de conséquences. Enfin, le lecteur, c'est vrai, quand il lit, a quand même une chose qui lui appartient en propre, c'est qu'il est le seul maître à bord de son propre imaginaire. Il ne lit pas, même s'il prête tel ou tel visage à sa lecture, il ne lit pas en la recherche en se disant que Madame Verdurin, c'est Marie-France Pizier, ou que Odette, c'est Catherine Deneuve. Non, je ne le crois pas. Et donc, c'est plus tard, quand il devient spectateur, ce lecteur, qu'il se retrouve capturé, forcément capturé par l'univers du réalisateur, par le travail du scénariste, qui lui impose un certain nombre de choix qui sont des choix narratifs, et qui sont aussi des choix qui privilégient tel ou tel personnage. Et je pense que le premier des la première approche, quand j'ai un roman adapté, c'est d'essayer d'imaginer ces choix qui sont nécessairement forcément des trahisons ou des infidélités.
Mais alors, dans ce cadre-là, est-ce qu'il peut y avoir, dans votre esprit, après tout, ce ne sont que des affaires de subjectivité, une inadéquation de départ entre l'univers d'un cinéaste et l'univers du romancier qu'il souhaite adapter? Concrètement, je ne sais pas, est-ce que vous auriez adapté Proust pour Jean-Pierre Jeunet?
Non. De toute évidence, non. Voilà, non, mais la réponse
j'ai bien compris.
Oui.
Parfait. Alain Absir, allez-y, avant que nous ne prenions une question. Je ne vous oublie pas, monsieur.
Je crois effectivement qu'il y a des univers qui sont incompatibles, ou plus exactement qu'il y a du vampirisme de la part éventuellement d'un cinéaste sur un auteur. Ben, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, j'en parle parce qu'elle en parle beaucoup, c'est Raphaël Biédou. Lorsque Mes nuits sont plus belles que vos jours ont été adaptés au cinéma, et qui n'a absolument pas reconnu du tout son livre, et qui elle vraiment a crié à la trahison, parce que l'esprit même du livre avait été vampirisé par, je dirais, ce qu'est le réalisateur, ce qu'il était, et ce qui était son œuvre. Son œuvre avait entièrement dévoré l'œuvre de l'écrivain. Mais vous savez, je crois que quand on est adapté au cinéma, il faut faire un choix aussi. Après tout, les auteurs ne sont pas obligés de signer et de dire « on est d'accord ». Ça, c'est la première chose. À partir du moment où on dit qu'on est d'accord, alors soit on fixe deux ou trois règles de départ. Moi, j'ai eu une expérience très, très, très étonnante avec ça. D'ailleurs, le film ne s'est pas fait sur un de mes romans. Et j'avais simplement demandé une seule chose contractuellement, c'est que le titre du roman soit respecté. Et quand le scénario m'est parvenu, à tous les coups, eh ben, le titre avait changé, par exemple. Donc là, il y a quand même un vrai problème. Et ça peut être la demande, ça et beaucoup d'autres choses, la demande formelle d'un auteur. Maintenant, moi, je crois qu'il faut aussi, à partir du moment où on se dit, voilà, c'est fini, on l'a lâché, soit on a la chance que vous avez eue tous les deux, c'est formidable, on reconnaît pas forcément les mots, on reconnaît peut-être même pas les scènes, mais ce qui se dégage, c'est quand même ce qu'on avait au fond du cœur, au fond de la tête, au fond de l'esprit, vu autrement. Et ça, je crois que c'est totalement enthousiasmant. Ou bien, oui, je crois qu'il peut y avoir trahison, et je crois que Lumière, ce que vous avez fait, c'est surtout pas une trahison. Et une trahison, c'est un viol, c'est une forme de meurtre pour moi. Et s'il y a trahison, l'auteur est tout à fait habilité, soit à retirer son nom, soit à dire, voilà, moi je ne veux, je inscrit absolument en faux contre ce qui a été fait. Enfin, c'est un petit peu dommage quand même. D'où l'intérêt de travailler ensemble et d'essayer de discuter, d'essayer de savoir pourquoi on a envie éventuellement que ce film existe. Je crois que vous m'avez dit, alors je ne vais pas parler à votre place, que au fur et à mesure de votre travail, vous avez eu des contacts, vous avez pu voir l'avancée du scénario.
Oui, ou plus ou moins. Enfin, contractuel.
C'était pas contractuel.
C'est une amitié qui l'a
mais
permis.
C'est la moindre, je trouve que c'est la moindre des choses.
Oui, oui.
Et je crois
sûr.
Que cette confiance, justement, c'est l'essence même de la liberté. Moi, je crois que c'est le meilleur moyen pour que le réalisateur, en fait, et le scénariste qui travaille avec le réalisateur, arrive à avoir son propre univers, à faire naître son propre univers à travers l'univers de l'auteur. Donc l'entente est tout à fait possible. Mais il peut y avoir trahison. Dans ce cas-là, je trouve que l'auteur est habilité à se rebeller.
Merci. Une question, monsieur, ou d'autres, enfin plusieurs questions peut-être. Allez-y.
En fait, ce n'est pas tout à fait une question.
Mais une intervention,
c'est
je t'en prie.
Ou une opposition, peut-être. Ah, je ne suis pas tout à fait sûr, mais pas d'accord avec cette affirmation quasi globale que la littérature et le cinéma soient deux univers différents. Pourquoi ? Je crois que c'est un peu plus subtil que ça. Je crois qu'à l'origine, l'idée, c'est de raconter une histoire, comme de voyager. Au début, on pouvait voyager à pied uniquement. Après, c'était à cheval. Avec l'évolution de l'humanité, après, on avait le train, la voiture, l'avion. La même chose, c'est avec l'histoire, raconter une histoire. Au début, il y avait la mime, la voix, l'oral. Après, on a inventé l'écriture. Par la suite, il y avait l'image. Et la succession de ces images a donné de pouvoir raconter une histoire avec la caméra, avec le cinéma. Donc, demain, on aura un autre mode d'expression, de raconter une histoire. Peut-être ça va être par la pensée, je n'en sais rien, avec les puces qu'on va mettre dans chacun de nous et chacun de nous pouvoir se représenter une histoire, rien en captant le Wi-Fi de quelqu'un d'autre. C'est l'évolution de l'humanité, donc c'est une suite de logique, raconter une histoire. Pas deux univers différents.
Merci. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette...
J'entends bien ce que vous dites. Si on reste sur l'idée de raconter une histoire, moi, je pense que la littérature ne fait pas que raconter des histoires. Il y a des livres qui ne racontent rien, qui sont une voix, qui sont un style, qui sont une écriture et qui ne nous racontent pas forcément une histoire. D'accord avec vous sur l'idée de cette chronologie, de la façon de raconter une histoire, mais parfois la littérature dit des choses
mais sans forcément raconter une histoire. Le cinéma non plus.
Merci. Est-ce qu'il y a à ce stade-là une autre question, intervention, réaction, opinion ? Monsieur, on va vous donner le micro dit baladeur. Il arrive vers vous, il vient se balader. Il a un petit écho. Il y a un micro d'ouvert de trop peut-être. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on a un... Merci. Ça ne marche pas, ça va venir. Il a marché, il remarchera. On va vous demander un tout petit peu de patience.
Merci. Je voulais savoir si, quand on adapte un livre, on est tenté de prendre des passages qu'on va lire en voix off pendant le film, des passages exacts du livre, ou pareil pour des dialogues, de reprendre exactement un dialogue qui existe, ou alors c'est un piège qu'il vaut mieux éviter.
Claude Miller.
Avec Philippe, j'avais la chance d'avoir affaire à un roman qui n'avait pas de dialogue. Donc là, j'étais. Si je voulais qu'il y ait des dialogues dans le film, il fallait donc que je les écrive avec Nathalie Carter, ma partenaire. Par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de moments en voix off. Certains reprennent le texte de Philippe et d'autres moments pas. C'est une espèce de pastiche de Philippe, mais qui ne sont pas exactement le texte, mais c'était pour donner certainement une cohérence dans la façon de raconter. C'est à partir du moment où je commençais à utiliser la voix off, il fallait que je continue jusqu'au bout, et qu'elle ne s'arrête pas tout à coup. Voilà, mais voilà. Enfin, voilà ce qui s'est passé avec Un secret, en tout cas.
Gilles Torrent, je me rappelle par exemple que dans 24 heures de la vie d'une femme, d'après Stefan Zweig, réalisé par Laurent Bounic, il y a de la voix off.
Il y a de la voix off aussi dans l'adaptation de Proust.
De Proust, absolument.
Et donc ça veut dire que il y a peut-être certains romans ou certains monuments littéraires qui imposent, en tout cas qui se sont imposés à moi, de façon telle que je me disais, je peux difficilement escamoter ce qui serait l'écho en voix off de la qualité très particulière de ce style. Parce que quand on a la chance et la folie un jour d'être celui qui va adapter Proust, il y a de quoi quand même terriblement inhibé. Donc en fait, j'ai utilisé curieusement des dialogues qui sont dans les variantes de l'édition de la Pléiade et qui se trouve tout à fait à la fin et qu'on ne trouve pas dans la recherche elle-même.
Pourquoi ça faisait moins peur ?
Parce que c'était beaucoup plus directement dialogué curieusement par Proust lui-même. Mais moi ce que j'observe c'est que dans bien des romans, à moins que ce ne soit des romans écrits par des petits malins qui font du pré-adapté, c'est-à-dire beaucoup de dialogues qui sont des romans surdialogués, moi je trouve que les dialogues des romans, s'ils ce sont des bons dialogues, ils s'intègrent dans cette matière littéraire, ils ont leur nécessité d'être, mais ils ne sont absolument pas ou rarement directement transposables dans un scénario. Je pense que le travail du scénariste là consiste à modifier, à créer une autre forme de façon de faire s'exprimer les personnages. D'abord parce que ça dépend aussi du choix des personnages qu'on a fait, puisque un scénariste qui adapte parfois privilégie un personnage qui était tout à fait secondaire dans un roman, et ça fait partie des trahisons nécessaires à cette nouvelle forme de narration qu'est l'adaptation. Donc,
est-ce qu'on ne peut pas faire attention au mot trahison ? Parce que je trouve qu'en effet, on est tous un peu unanimes pour dire ça. Je me dis que, est-ce qu'on ne pourrait pas faire attention, peut-être parler d'interprétation ? Moi, j'ai envie de parler d'interprétation. C'est complètement votre droit, votre rôle de dire ce dialogue, il est formidable dans le livre. Une fois qu'il est dit par Marie-France Puisier ou qu'il est dit par un tel, eh ben, il ne peut pas être comme ça et il ne peut pas dire ça. Et dans ce cas-là, j'interprète. Et moi, j'utilise assez souvent ce mot-là. De la même façon qu'il y a mille façons d'interpréter une sonate de Mozart ou de Beethoven. Et il y a d'ailleurs une émission, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 20 ans, où les gens s'en payaient pendant 3 heures sur chaque interprétation de la même sonate. C'était absolument extraordinaire. Et ils avaient raison et tort à la fois. Mais donc voilà, c'est de l'interprétation plutôt que de la trahison. Parce que, alors, ceci dit, on a quelques exemples aussi où, justement, pour rebondir sur ce que disait Alain Absir tout à l'heure, moi, donc, on est tous d'accord, la grammaire est différente, l'écriture est différente, les métaphores sont différentes, on a cette liberté totalement d'interpréter. Après, il y a peut-être des questions qu'on peut aborder rapidement. Je vois le numéro 1 de synopsis que tu as là. Et tu as beaucoup de chance parce que c'est un incunable.
C'est pour toi. Ah, voilà, excusez-nous.
Je me rappelle que dans ce numéro, on était tombé à bras raccourcis sur le pauvre Didier Decoin à l'époque. C'est bien dans ce numéro, je pense.
Ça dépend, je sais pas. Vas-y.
Où on parlait du comte de Monte Cristo.
C'était dans un.
C'est dans un autre. Ouais. Et où. Bon, c'était un travail et d'adaptation de Didier Decoin et de réalisation. Et on s'était un petit peu ému, mais c'était pour la forme, de dire, bon, à la fin de ce roman, qui est quand même là un monument littéraire.
Pareil, oui.
À l'époque, c'était considéré comme de la littérature très grand public, mais enfin bon, c'est quand même un monument littéraire. Et l'adaptateur, donc, d'ailleurs, on dit adaptateur, s'était dit que vraiment le comte de Monte Cristo ne pouvait absolument pas traiter Mercedes comme ça, et je ne sais plus, mais il repartait presque main dans la main. Etc.
C'était un happy end, oui, alors que dans
le livre. Il n'a vraiment été pas voulu, parce que c'était le contraire, il y avait une espèce de baiser de la mort quasiment dans le roman. Voilà. Alors là, pour le comte, on peut peut-être se poser la question, au-delà du fait qu'on interprète, on adapte, on dit les choses différemment, dans ce cas précis, il y avait une volonté de faire de Dantès un vengeur et jusqu'au bout, et même avec la femme qu'il avait aimée à la folie, et là un adaptateur décidait que c'était beaucoup trop dur, qu'on pouvait pas, et on changeait totalement ça. Alors là je me demande s'il n'y a pas de trahison quand même.
Gilles Durand, vous avez déjà fait des choses comme ça?
Non, mais interprétation, ça va, c'est très bien, ça me plaît. J'avais pas commencé d'écrire une ligne de du temps retrouvé, que déjà dans la presse, on se déchaînait en disant que Proust, par définition, est inadaptable. Que la phrase proustienne, le labyrinthe, disons, de la phrase proustienne, est adaptable. On peut adapter Dumas tant qu'on veut, Flaubert, Balzac, Maupassant, etc., etc. Mais Proust, non. Donc Rinaldi, Bernard Franck, Anne-Marie Garat, je me souviens, m'avaient pétrifié. Parce que je me disais, il y avait comme une sorte de diktat, bon, à partir duquel j'avais qu'à me débrouiller. Et c'était d'autant plus compliqué que Raoul Ruiz, qui lui fonctionnait avec des carnets de croquis et des mouvements d'appareil, m'avait donné comme seule clé cette idée que c'est dans la phrase proustienne elle-même que j'allais trouver, disons, les couloirs secrets qui me permettraient de circuler librement. Donc j'ai passé à la loupe en relisant Proust un certain nombre de scènes, en me disant, est-ce que ça recèle des travelling, des plans séquences, est-ce que c'est ça que je... Bon, jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'effectivement, lire et relire, refaire une lecture en vue, évidemment, de l'écriture d'un scénario, c'était traiter ce que, et là, c'était pas une interprétation, ce que Proust traite à sa façon en priorité et magnifiquement, c'est la question du temps. la question de la durée. Comment faire en sorte que, justement, contrairement à ce que Visconti avait envisagé, on ne raconte pas une histoire avec un début, un milieu et une fin. Ça, c'est la narration du scénario de Suzo Chekinemiko, qui est intéressante, mais qui ne traite pas cette idée qu'après avoir perdu son temps dans les salons, le narrateur découvre un autre temps transcendantal qui est celui de l'art. Et ce double mouvement, qui est d'ailleurs repris par Harold Pinter, déjà donnait une direction qui me paraissait importante. Après, comment traiter à l'intérieur des séquences les questions de durée, comment se désinhiber tout simplement et avoir la liberté de circulation à l'intérieur du livre que Proust s'est magnifiquement octroyé, et qui n'est pas simplement une liberté purement digressive, mais quelque chose qui, quand on l'examine de plus près, est d'une infinie rigueur. Et ça, c'est l'exercice auquel je me suis appliqué. Voilà. Après, l'esprit même du film de Raoul Ruiz a-t-il convenu au proustolâtre qui m'avait interdit de m'y coltiner? Je crois que oui, parce que cette même Anne-Marie Garat, qui est dans le monde de l'éducation, avait dit « c'est pas possible », a vu le film et a trouvé que c'était quand même assez étonnant. Le problème, c'est que souvent, les profs n'aiment pas trop que le cinéma vienne à la rescousse des livres qui n'ont pas encore été lus par les élèves. Parce que c'est... Non, mais moi, j'en ai trouvé, j'en ai rencontré. Et j'ai été prof moi-même, et c'est vrai que quels que soient les moyens, pourvu qu'ils se mettent à lire, ces chérubins, ben moi je suis absolument d'accord. En Angleterre, ça c'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait, quand la recherche, quand le temps retrouvé de Raoul Ruiz est sorti, les ventes de la recherche ont triplé, ce qui est quand même pas mal, mais ce que disait Philippe Grimbert à l'instant montre bien que pour ceux qui n'avaient pas lu son livre, si le cinéma donne l'occasion effectivement d'une lecture, je trouve ça fantastique.
Patrice Hoffmann, peut-être juste revenir sur cette idée d'adoptant adopté ou interprétant interprété, mais est-ce que vous, alors vous considérez comme une sorte, comme au milieu de ce couple-là, c'est-à-dire est-ce que votre rôle ce serait de trouver un parent adoptif pour un futur adopté, en quelque sorte. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a dans votre rôle de directeur littéraire, d'éditeur, l'idée que, de plus en plus, il faut essayer de faire se rencontrer ces deux univers-là, et peut-être de créer du désir, chez Claude Miller, par exemple, d'adapter, pas forcément une seconde fois Philippe Grimbert, mais quelqu'un d'autre, un autre auteur.
Créer du désir, oui, on est vraiment là pour ça, auprès de tout le monde, et d'abord des lecteurs. Mais vraiment, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'un directeur littéraire d'édition, il doit faire exactement ce travail. Et encore une fois, je pense, dans bien des cas, il doit d'abord se sentir directeur littéraire et non pas auteur bis substitut. C'est-à-dire que la personne qui vous a suggéré, conseillé de changer le chapitre 1, voilà, ça c'est un vrai travail d'editing, donc d'éditeur, c'est l'étymologie de notre métier. Et c'est là qu'est notre savoir-faire. Maintenant, vraiment, je pense que parce que ce n'est pas la même écriture, parce que ce n'est pas la même grammaire, parce que ça n'oublie pas aux mêmes règles stylistiques du tout, moi, je m'interdis de dire « Ah, ça serait bien pour le cinéma ou la télévision. » Ça ne fonctionnera pas comme ça dans tous les cas. Alors, la question est néanmoins pertinente, parce qu'évidemment, c'est un réflexe qu'il y a de plus en plus. Je ne sais plus qui disait pour les dialogues, il y a des romans qui sont extrêmement dialogués comme... Bon, je pense que c'est une tentation qui est assez fréquente qui ne peut qu'échouer si elle est formulée comme ça. Mais ça peut être autre chose qu'une tentation, ça peut être une espèce de perméabilité naturelle. C'est-à-dire que certaines fois, on n'a pas du tout besoin de le recommander et on voit arriver, comme vous disiez, des textes qui sont un petit peu préformatés pour... Et là, on a l'impression, oui, presque plus de lire des scénarios un petit peu surécrits. C'est, voilà, du coup, c'est pas de la
ligne. Mais toute petite anecdote, quand j'ai expédié mon troisième roman, j'en ai pas écrit beaucoup, à un certain nombre d'éditeurs, il y en a un qui m'a répondu très vite, consterné, en me disant, mais comment un scénariste de votre réputation a-t-il pu écrire un roman aussi inadaptable?
Alors, je voudrais juste dire simplement que là, on a des cas de figure quand même qui sont particuliers. On a Proust et Gilles Torrent. Bon, là, en effet, avec plus que tous les autres auteurs que vous avez cités, qui ne sont pas des moindres, tout le monde avait peur, presque pour vous, en effet. On a un livre comme Un secret qui est un livre immense, à mon avis. On a un réalisateur qui a adapté parmi les plus grandes adaptations littéraires qui ont été faites depuis 30 ans. Voilà. Donc, vous êtes dans des cas de figure, en plus collaboration, etc. Honnêtement, moi, là où je trouve que la question est intéressante, parce qu'elle est, encore une fois, dans bien des cas, angoissante pour beaucoup de gens, c'est que un auteur aujourd'hui se voit souvent dans une situation où on va l'orienter vers tel ou tel type de travail, ce qui m'inquiète le plus dans l'évolution des choses, c'est de voir des romans qui sont de moins en moins respectés néanmoins. Alors, est-ce qu'ils sont de moins en moins respectés ou de moins en moins respectables ? C'est toute la question, honnêtement. Et c'est peut-être là que peut se situer une forme de débat. Mais je vois tous les jours, et je vois les deux domaines s'affronter, et j'essaie d'expliquer aux auteurs qu'il est normal qu'un scénariste, un réalisateur, pour toutes les raisons qu'on a évoquées sur lesquelles on est d'accord, se mette à modifier ceci et cela. Il n'empêche que dans bien des cas, ça va être la question de la limite qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que l'on change complètement la structure, que parce que l'économie des personnages ne peut pas être la même, on supprime des personnages, on leur fait dire autre chose, on condense, toutes ces choses-là, c'est, je dirais, le béaba du métier. Mais, évidemment, on est depuis un certain temps dans un système, moi que je respecte tout à fait, que j'ai des fois un peu de mal à faire comprendre aux auteurs, où on va très très loin là-dedans. Et je pense que le dosage, il est à la fois quantitatif. Je pense qu'il y a des cas extrêmes où on peut adapter un livre magnifiquement à partir d'une phrase ou deux. Il y a on le sait aussi, des nouvelles. Quand on voit le travail de Chéreau sur Intimité, c'est tout à fait typique de voir qu'il avait fait... il avait pris le roman, puis il avait pris une toute petite nouvelle à côté dont il avait épousé la structure pour prendre l'idée d'intimité. C'était juste assez extraordinaire de ce point de vue-là dans le travail d'adaptation. Mais aujourd'hui, voilà, on n'est pas tout le temps dans le cas de figure de Miller adapte Grimbert ou on adapte Proust. Quoi. On est dans bien des cas dans un travail où on se sert quand même du roman comme d'un autre scénario, comme d'une base de départ. Et voilà. Alors, voilà, je crois qu'il faut le dire, il faut le savoir. Dans bien des cas, ce n'est pas forcément gênant, mais je me dis dans certains cas qu'on n'est presque plus dans ce qu'on imagine dans bien des cas de l'adaptation. Et dans tous les cas, on est dans des domaines très différents. Mais ce n'est pas impossible, ce n'est pas interdit, ça ne me paraît pas obscène.
Claude Miller, vous avez un sentiment par rapport à ce qu'il aurait dit, ça ne vous concerne pas, Patrice Hoffmann l'a dit, mais en même temps, est-ce que c'est pour vous un danger ? Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui effectivement peut arriver et...
Non, mais ce n'est pas un danger pour le cinéaste, ça peut être un danger pour l'auteur.
L'auteur, absolument. Tout à fait.
Le cinéaste, après, il sera jugé pour la qualité de ce qu'il aura fait. Ouais. Mais si je comprends bien... il a pu m'arriver d'être dans un cas de figure très très différent de celui de mon travail avec Philippe. C'est par exemple le film que j'ai fait avant, qui s'appelle La Petite Lily, qui est une adaptation, Chekhov, avec plein de guillemets, de La Mouette, mais avec plein de guillemets. Et puis bon, j'avais pas, malheureusement, Chekhov, j'avais pas Chekhov sur le dos.
Sous la main.
Et il valait mieux pas, parce que j'avais évidemment envie de faire un film, bon, encore une fois, sûrement très personnel, en partant de quelque chose et en l'interprétant, j'emploie pas le mot dégoûtant, mais en l'interprétant énormément, voilà, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, alors vraiment, il y a des cas de figure très, 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 très différents. Il m'est arrivé d'adapter aussi une nouvelle, non, un chapitre d'un livre. C'est un film qui s'appelle La Chambre des magiciennes, qui n'est pas très connu, qui est un film que j'ai fait pour la télévision, qui était une adaptation d'un chapitre, d'un roman, d'une personne dont on parle un peu plus maintenant, qui est Sirius Vett, qui est un écrivain américain, qui est par ailleurs la femme de Paul Auster.
Voilà. C'est aussi comme ça qu'on la caractérise.
Voilà, et c'était le livre s'appelait Les yeux bandés, c'était chez Actes Sud. C'est un livre que j'adorais, mais j'adorais le livre. Mais j'avais envie d'adapter une partie du livre. Ça, c'est encore un autre cas de figure. Il y a énormément de possibilités.
Et Gilles Torrent, justement, vous vous êtes posé la question, puisque vous le rappeliez, vous avez bien raison, l'auteur de trois romans. Vous vous êtes posé la question de si un jour quelqu'un venait vous voir en disant j'ai envie d'adapter l'un de ces romans.
La question, je ne me la suis jamais posée. Et Et là, je continue de maintenir. Je n'écris pas en me disant il faut surtout que ça ne s'adapte pas. Si d'aventure un roman à venir peut inspirer un cinéaste, pourquoi pas d'ailleurs. Et ce serait une expérience d'autant plus intéressante que celle qu'a vécu Philippe, que moi j'ai vécu quand j'ai vu à quel point les auteurs des romans, je pense à Philippe Ballan, Une affaire de goût, qui a dû voir le film 3 fois pour cesser d'essayer de raccorder les images à son texte. C'est une chose qui arrive fréquemment. Alors quand, par rapport au travail, disons, purement scénaristique, il se trouve qu'il puisse y avoir une correspondance, une complicité, une connivence entre un auteur, je pense à Chantal Thomas, dont j'ai adapté Les adieux à la reine, Chantal Thomas, prix Femina. Bon, et c'est vrai qu'il y a là des vrais choix d'adaptation et un vrai risque. Film pour Benoît Jacquot qui se tournera, j'espère, bientôt. Il y a un vrai risque parce que tout à coup, je décide que son héroïne, qui s'exprime dans un très long flashback, ça commence à Vienne au moment de l'invasion des armées napoléoniennes, elle a une 60aine d'années et elle raconte les 4 jours durant lesquels les rats quittent le navire d'une certaine façon, après la prise de la Bastille. Donc c'est absolument passionnant, c'est une sorte de Titanic à Versailles, le style est extrêmement plus documenté, si ce n'est que faire le choix, et c'est pas n'importe quel choix, que cette femme ne sera pas cette sorte d'exquise vieille fille du roman qui se penche sur son passé, mais au présent le récit d'une lectrice de la reine Marie-Antoinette qui est toute jeune, c'est quand même une sacrée modification. Alors, si respectueux par rapport au livre, mais c'est vrai que moi j'y vais le cœur battant, hein, et quand il arrive au miracle qu'un auteur me dise mais c'est absolument formidable, là je trouve que ça justifie quand même beaucoup les choix qu'on a pu faire, mais ça n'arrive pas tout le temps, et c'est vrai que très souvent je prends la précaution liminaire et contractuelle pour ne pas avoir les auteurs dans les pattes contrairement non mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas de droit de regard, parce que sinon c'est ma liberté d'adapter qui est en jeu, et je ne peux absolument pas écrire sous la contrainte du regard d'un auteur, quelles que soient, disons, les conséquences fâcheuses que ça puisse déclencher.
Il y a aussi des infidélités, je préfère d'ailleurs le mot infidélité à trahison, qui sont enrichissantes. Je disais par exemple que dans mon livre n'apparaît nulle part le personnage de l'auteur en tant que psychanalyste travaillant auprès d'enfants autistes. Je pourrais dire, mais pourquoi Claude est allé ajouter ça? Ça n'est pas dans mon livre. Or, je trouve que c'est quelque chose qui était une excellente idée, qui enrichit, de mon point de vue, le personnage du narrateur lui-même, qui, en effet, dans sa carrière même, explique au fond pourquoi le silence de ses parents l'a amené à essayer de sortir du silence des enfants autistes. Et je trouve que c'est une infidélité, bien sûr, puisque ce n'est pas dans le livre, mais qui enrichit le propos. Il y en a une autre, c'est quand j'ai vu Cécile de France blond platine, alors que j'avais décrit Tania comme une belle brune, on pourrait penser que c'est une trahison. Or, c'est vrai que Claude est resté en ce sens fidèle à l'esprit, et non pas à la lettre, puisqu'elle est blonde et non pas brune, d'une juive qui s'identifie quelque part à un idéal arien de femme sportive blond platine. Je trouvais qu'en effet, il était dans ce sens fidèle à l'esprit du livre, bien que ce fût une infidélité.
Mais il me semble que dans tous les exemples que vous donnez, c'est pas de la trahison, c'est simplement la façon de transposer les choses de manière à ce qu'elles soient le mieux perceptibles possible en fonction de l'image, en fonction du son, en fonction de tout ce qui intervient. C'est toute la différence avec l'exemple de Monte Cristo tout à l'heure, où la dernière image ou pratiquement de Monte Cristo modifie intégralement l'état d'esprit du héros, donc modifie intégralement le sens de l'œuvre en quelque sorte.
Oui, comme si la famille
et c'est ça le problème.
La famille d'un secret serait devenue une famille de collabos, j'aurais en effet voilà. Que c'était une véritable trahison.
Alors on n'en est pas là d'ailleurs, le Monte Cristo en question n'est pas si mauvais, mais c'est vrai, à mon sens, hein. Mais c'est vrai que ce final pose un problème. Il n'est pas du tout question, en tout cas, que l'auteur, ça ne doit surtout pas se faire, et un droit de regard, ça n'a pas de sens. Et vous avez raison, je crois que c'est une prise de risque collectif. Donc, à l'auteur de faire confiance, je pense aussi à l'adaptateur, au scénariste, de jouer le jeu et de peut-être quand même se poser la question de savoir mais est-ce que ce que je suis en train de faire ne va pas dans le sens résolument opposé de ce qu'a souhaité exprimer l'auteur. C'est là que peut se poser le vrai problème, et c'est plus fréquent qu'on ne croit, croyez-moi, beaucoup plus fréquent.
Mais Frick Grimberg, il me semble quand même que vous avez fait quelque chose avant le film qui vous a permis de rester maître un peu. Vous avez fait presque un casting de réalisateur quand même.
Oh, mais ça, c'est une chance inouïe, moi.
Oui, c'est une chance, mais enfin, c'est aussi une façon de baliser le terrain et de vous prémunir contre les petits problèmes qui peuvent se poser.
Contre rien du tout. La preuve, c'est que vous avez à côté de vous un réalisateur qui m'a dit par quoi il commencerait le film, et ça n'a pas été le cas, vous voyez. Donc, on n'est jamais prémuni de rien, contre rien.
Enfin, vous avez essayé, en tous les cas.
Mais voilà, il est vrai que parmi les réalisateurs, c'est très étonnant d'ailleurs que, évidemment, c'est un choix qui s'est fait en un entretien. C'est vrai qu'il y avait cette idée de la première image du film, bon, qui au fond était un détail, mais il fallait bien trouver quelque chose qui puisse donner l'idée de la façon de l'abord du film lui-même. Ce qui était intéressant, si vous voulez, c'est d'une part qu'il y a des gens que j'ai sentis pas très motivés, c'est-à-dire qu'ils allaient faire un film, c'est un peu présomptueux de ma part, mais un film comme un autre, c'était un film de plus dans leur filmographie, tiens, votre livre m'a intéressé, je vois bien ça comme ça. C'est vrai que la tiédeur me refroidissait, si je puis dire. C'était vraiment pas ce qu'il me fallait. Et puis avec Claude, il y a eu d'abord son engagement, et puis tout de même un film fétiche pour moi dans la filmographie de Claude, qui est La meilleure façon de marcher, dont je n'ai compris qu'après coup pourquoi
piscine ce... bien sûr, c'est la piscine qui est l'élément récurrent des deux films.
On pourrait penser ça, or il ne s'agit pas de la piscine, il s'agit de la rivalité fratricide entre les deux moniteurs. Où inconsciemment, j'avais déjà perçu là, chez Claude, la façon de traiter ce que je traite dans mon livre, cette rivalité imaginaire entre deux frères, qui sont d'ailleurs les deux versants incarnés assez bien par Devers et Bouchité dans La meilleure façon de marcher. Et ça, j'en avais pas conscience. Hein. Simplement, je savais que ce film m'avait marqué. Je n'ai compris qu'après coup, en rencontrant Claude et en parlant avec lui, du pourquoi de cet attachement de ma part à ce film-là.
Claude Miller, une réaction à... Ah, une question. Merci, Claude Miller, de me rappeler à mes devoirs. Bon, on vous écoute.
Je ne voudrais pas interrompre le débat, donc sûr si Claude Miller veut faire sa réaction. J'avais une question sur un peu plus sur le... Pour Claude Miller et Gilles Torrent, donc plus pour les adaptateurs, entre guillemets. On a évoqué à plusieurs moments qu'il n'y avait pas trahison si le... l'esprit du livre était respecté, et je voulais revenir, qui nous parle un peu de leur travail en fait sur l'adaptation, sur trouver justement cet esprit, un peu de la manière dont ils procédaient, notamment dans des ouvrages très, très denses, très riches, avec beaucoup de personnages, comment est-ce qu'ils faisaient ressortir certains personnages, ils en mélangeaient certains, est-ce qu'il y a certaines séquences qui sont très très fortes dans l'ouvrage d'origine et qui s'imposent absolument pour rester telles quelles ou à peu de choses près dans l'adaptation définitive, quels sont un peu le parcours pour trouver l'état d'esprit, le ton qu'on va retenir dans le film, dans l'adaptation définitive.
Gilles Torrent, en 1 minute 30, une question facile, une réponse immédiate.
C'est une question très complexe. Mais bon, je prends un exemple très précis et j'essaie d'être synthétique. Un roman qui s'appelle Une affaire de goût, dont je parlais tout à l'heure, adapté donc par Bernard Rapp, propose le texte, je parle du roman de Philippe Ballant, une chronologie linéaire dans laquelle les événements fonctionnent step by step de façon à ce qu'il y ait chaque fois, chapitre après chapitre, une véritable surenchère qui aboutit nécessairement à un drame final. C'est pas pour faire le malin quand je me retrouve face à ce roman qui moi m'intéresse, mais dont je me dis qu'en même temps les prémices sont particulièrement artificielles, un PDG de grosse société qui s'entiche d'un serveur de restaurant dont il veut faire son goûteur parce que lui-même le PDG est phobique, supporte pas le fromage et le poisson, je me disais ça risque d'être un peu théâtral, on va pas y croire, enfin bon, et en même temps ça raconte de façon étonnante comment deux hommes sont terriblement aimantés l'un par l'autre alors que la question de l'homosexualité d'ailleurs est vraiment plutôt hors champ dans cette histoire. Bon, là je me dis où on reste fidèle à la chronologie de ce décours romanesque, ou bien je me pose, ou je vais faire en sorte que l'on se pose des questions qui ne sont peut-être pas directement, frontalement posées dans le roman. À savoir que moi, ce qui m'intéressait davantage, c'est de comprendre la psychologie, parce que ça, c'est ma formation aussi, de ces deux personnages. Donc, je préférais qu'on n'en fasse pas un film d'intrigue. C'est des vrais choix, hein, qui sont risqués, comme je disais tout à l'heure. Mais davantage, un film dans lequel on comprenne au début qu'un drame épouvantable a eu lieu, puisqu'un des personnages est en tôle, et qu'on on se demande, en inventant des personnages qui ne sont pas du tout dans le roman, comme un juge d'instruction magnifiquement joué par Jean-Pierre Léo, qui s'étonne sur la folie de ce geste, alors que lui-même elle est encore plus fou que celui qui l'interroge, un expert psychiatre qui fait passer un Rorschach, tout ça, ça ne figure... Donc ce sont des choix qui sont assez radicaux. Et pourtant, et cependant, ça parle de la même histoire, si ce n'est que ça la présente autrement, et ça permet, chemin faisant, qu'on s'interroge sur les soubassements, disons, psychologiques de ce qui a pu un jour, dans cet étrange jeu entre ces deux hommes, les attirer. Puis, je terminerai en disant, il y a un tout petit personnage dans le livre, qui est un personnage féminin, et je me disais, c'est pas possible qu'il n'y ait pas aussi le principe de réalité d'un personnage féminin qu'incarne très bien Florence Thomassin. Donc, un personnage très secondaire devient un personnage important et se met entre ces... Bon, là, voilà des choix. Après, il y a ceux qui ont lu le bouquin, et puis ceux qui ne l'ont pas lu. Il y a ceux qui voient un film sans avoir vu le livre. Il y a l'auteur qui, comme je vous le disais, a dû voir le film 3 fois pour s'y retrouver, et puis finalement a admis que c'était quand même un beau film. Voilà, enfin bon, et c'est un thriller. Il y a eu un grand prix à Cognac.
Claude Miller, la méthode de Claude Miller, adaptateur, si on peut dire.
Oui, c'est très paradoxal parce que c'est à la fois, enfin moi, ma méthode à moi, si tant est que j'en ai une, elle est à la fois très concrète et très introspective, c'est-à-dire à la fois physique et mentale. Elle est introspective parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je cherche à comprendre pourquoi j'ai envie de faire l'adaptation. Donc à retrouver finalement les émotions de ma première lecture et à rebondir sur ces émotions et à les pousser le plus loin, mais encore une fois, c'est très égocentrique par rapport à moi, pas par rapport à l'auteur. Hein, c'est ma position par rapport à ma lecture. Et en même temps, c'est très physique parce que pour arriver à ça, moi, je prends un crayon et une règle et je souligne tout ce qui m'appelle, tout ce qui m'interpelle, comme on dit aujourd'hui. Mais ça peut être, c'est pas forcément des scènes, c'est pas forcément des choses dramaturgiques, ça peut être un mot, un concept, un truc dans le bouquin. Et ça fait un rébus, parce que après, tout ça je le mets dans mon ordinateur, et ça fait un rébus, c'est-à-dire quelque chose qui est illisible, puisqu'il y a un mot à la page 12, puis après il y a toute une page, et ça fait un rébus, et ce rébus, je le mets en forme. Alors, je mets en forme par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon. Et en fait, il y a un côté... ça ressemble un peu au travail du psychanalyste quand il écoute son... Non, vous prenez des notes.
L'attention flottante nous amène en effet à sortir un mot d'une phrase.
Voilà, c'est flottant. C'est exactement ça. Et finalement, l'instinct fait qu'on apprend à nager quand c'est flottant. Et on avance. Enfin voilà, comment je ne sais pas si je m'explique bien.
Si, absolument. Alors justement, on va maintenant parler un peu plus dans le détail d'un film que vous n'avez pas encore vu, parce qu'il n'est pas encore sorti. Il s'appelle La Belle Personne. C'est un film de Christophe Honoré qui sera d'abord sur Arte le 12 septembre et puis très très vite dans la foulée au cinéma, selon un modèle qui a déjà existé avec d'autres films et plutôt avec succès d'ailleurs. Le point de départ de ce film, Christophe Honoré le donne ainsi, il a dit, un peu comme vient de le faire Claude Miller, moi, il y a une phrase qui m'a accroché, et j'ai voulu en faire un film, c'est « Jamais Court n'a eu tant de belles personnes ». Il dit, c'est le point de départ de mon envie, de mon désir, et cette envie et ce désir ont été manifestement partagés par Gilles Torrent. Je voulais juste vous lire quelques lignes de ce que dit Christophe Honoré à propos de Gilles Torrent, parce que je pense que c'est aussi intéressant dans ce dont on parle, c'est-à-dire les rapports entre le metteur en scène et son adaptateur, en quelque sorte. Gilles Torrent est un compagnon de longue date. Il y a bientôt 10 ans, il a eu la délicatesse de s'intéresser à mon premier court-métrage pour en co-signer le scénario. Depuis, nous nous entretenons régulièrement, plus souvent, il est vrai, pour déguster les fruits de mer que pour écrire des scénarios. Mais après tout, c'est la même activité. Le temps de l'écriture d'un scénario n'est rien d'autre qu'une conversation où l'on n'oublie pas de se nourrir. Avant d'entrer un petit peu dans le vif du plateau...
Je l'avais pas lu, ça.
Oui, mais c'est... j'espère. Avant d'entrer dans le vif du plateau de Friedmer, je vous propose, un peu comme un cadeau que Christophe Honoré a accepté de nous faire, de voir, on peut dire en avant-première, un extrait de cette princesse de Clèves sur lequel je ne vous dis rien. C'est un extrait choisi par Christophe Honoré. Vous verrez la continuité du film en septembre, je vous le rappelle. Je ne vous en dis pas plus. On regarde les images et je pense qu'il y aura matière à en reparler ensuite avec Gilles Torrent. Je vous rappelle donc qu'il s'agit de La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. cette princesse de Clèves en Duffelcoat à col de fourrure synthétique. Vraiment,
non, c'est ainsi qu'à la cour d'Henri II, le duc de Nemours et la princesse de Clèves tombèrent
amoureux.
Passionnément amoureux d'une passion qui ne peut pas se vivre, pas une passion ordinaire.
Oui. Mais décidément, j'insiste, la princesse en col de fourrure synthétique et le prince en débraillé chic, bobo, c'est quand même pas sérieux.
Alors pour la petite
quoi.
Histoire, au départ, très sérieusement, on avait décidé quand même avec Christophe de faire une adaptation historique, un film dit en costume. Et puis on avait même un joli décor qui était l'hôtel de Lauzin. Des batailles, tournois, cabinet du roi, etc. Le budget d'Arte ne permet absolument pas ce genre de folie. Et on était parti pour faire un film très cheap. Donc on s'est dit, principe de réalité oblige, transbaïtons la cour d'Henri II et de François II dans une cour de récré. Et on a trouvé la structure, le cadre. D'ailleurs, c'est un vrai cadre du lycée Molière. C'est un lycée du 16e arrondissement, rue Annac, magnifique. Là, on ne voit que les intérieurs, enfin l'intérieur d'une classe. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où le cadre littéralement était planté, on a même évacué, Christophe a même évacué les parents des élèves qui figuraient déjà dans une première version du scénario. Voilà, moi c'est une, je découvre, je ne savais pas que Christophe avait choisi lui-même cette scène. Je trouve que c'est un choix très intéressant parce que c'est un moment capital, c'est le moment où tout à coup la petite Junie de Chartres fait la connaissance de son prof d'italien et ils vont vivre évidemment quelque chose qui est le corps même du récit. Mais c'est vrai que pour Christophe qui a dit après les chansons d'amour que pour lui le scénario n'avait aucune importance, on a quand même bossé ensemble et c'est vrai que les fruits de mer n'étaient pas très éloignés, on a commencé à Deauville, enfin, tout a été très très vite et ce qui, moi, m'intéresse de la part de quelqu'un qui tient effectivement à l'ancrage romanesque, c'est l'intérêt qu'il a porté au roman de Madame de Lafayette et, à la limite, les exigences quasi paradoxales par rapport à ce qu'il dit, qu'il a manifesté pour que l'on trouve des équivalences, des correspondances que ceux qui n'ont pas lu Madame de Lafayette et la princesse de Clèves ne verront évidemment pas, mais qui sont réellement,
un ou
par
deux
exemple, le vidame de Chartres, c'est Mathias, le cousin. Par exemple, si Junie, la princesse de Clèves, pleure dans ce choix qui n'est évidemment pas celui de Madame de Lafayette, qui est de Donizetti, c'est parce qu'elle l'a perdu sa mère, comme dans le roman Madame de Chartres, qui l'a élevée à la vertu, et qu'en même temps, bon, l'histoire que ça raconte et le choix qu'on en a fait fait écho à la tragédie qu'ils vont vivre. Donc il y a tout un dispositif qui, dans un premier temps, que vous avez vu, donne lieu à, je dirais pas du bavardage, mais du dialogue, et puis des choses assez drôles. Henri qui est le roi dans la, bon, est assez pédant, c'est un surdoué de la littérature et il en profite. Et petit à petit, avec la musique, vient le temps du silence et des regards. Il y a une chose qui moi m'a toujours beaucoup intéressé dans le roman de Madame Lafayette, c'est le jeu des regards. Le jeu des regards à la cour, parce que, et ça c'est toujours un casse-tête pour un scénariste, comment parler des regards, comment parler des silences dans un scénario, comment rendre sensible ce qui devient justement l'impossibilité de se parler, puisque là où le scénariste peut souvent briller le plus facilement, c'est avec des dialogues. Et là, dans cette façon qu'a Christophe de faire des portraits, on retrouve justement ce qu'il disait sur les belles personnes et les hommes admirablement bien faits dont parle Madame de Lafayette elle-même, cette cour, cette forme de liberté et en même temps cette gravité, parce que je pense que chaque fois que sa caméra se balade sur un sourire, un regard, il se passe quelque chose. Et c'est ainsi que petit à petit, il crée une véritable émotion. Là, je dois dire que le bonheur du scénariste ou du co-scénariste ou du co-adaptateur, quand il découvre ça, est incontestable.
Merci Gilles Torrent, ce sera un petit peu le mot de la fin, parce que le principe de Ciné-édition, ben, c'est que les événements s'enchaînent. Il y en a d'autres à venir. En tout cas, moi, je vous invite aussi à peut-être à prolonger la discussion qu'on a eue aujourd'hui avec un débat dimanche à 11h30 en salle Georges Franju qui s'appelle « Littérature et cinéma, qui influence qui ?» point d'interrogation, autour notamment d'Antonio Tabucchi, Sergio Vecchio et Florence Delay. Ce sera une rencontre animée par Bernard Coman. Voilà une façon comme une autre de prolonger notre débat. Il n'y a pas, Claude Miller ne me mentira pas, il n'y a pas de bon film sans un générique de fin. Notre générique de fin, il sera le suivant. Je vous remercie beaucoup de leur présence. Gilles Torrent, Alain Apsir, Patrice Hoffmann, Philippe Grimbert et Claude Miller. Nous retrouvons tout de suite, si vous le voulez bien, Philippe Grimbert et Claude Miller pour une signature de l'autre côté, sous la grande tente chapiteau qui abrite Ciné-édition. Ils signeront les différents livres. Il y a une pléthore de production éditoriale autour d'un secret, l'avant-scène cinéma, un livre de photos commenté, très très beau, le DVD aussi évidemment du film, donc je vous invite à prolonger aussi cette séance de la sorte. Voilà, merci beaucoup de votre participation, merci à vous tous. Merci à la Cinémathèque française et à la SGDL bien sûr, et puis j'ai envie de vous dire, je crois qu'on a tous envie de vous dire, allez au cinéma !